Anne Vache, cordée solidaire pour les migrants. Un reportage pour Radio Zinzine et les radios libres. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and banner.
Là, on rentre dans la vallée
de la Clarée ici. Ouais. La Clarée étant le nom de la rivière qui coule ici, qui tient son nom du fait que c'est de l'eau très claire.
Nous sommes en voiture avec Jacques, notre hôte.
Donc on a depuis le Mont-Genèvre un tout petit ruisseau qui descend, qui se jette dans la Clarée. Et ce petit ruisseau qui descend s'appelle la Durance.
Ah, et la Clarée.
Or, la Clarée qui est beaucoup plus abondante.
Ah oui.
Pourquoi ça n'est pas le nom de la Clarée qui a prédominé? C'est parce que les sources de la Durance sont plus élevées.
Ah, que la
voilà les flics en face. En altitude, ils nous font signe de passer. Allez, vas-y.
Vous avez vos papiers d'identité?
Yes.
Quelque part sous les sommets du Briançonnais, un dimanche froid et ensoleillé de décembre. Ça aurait pu ressembler à une balade hivernale entre amis dans la vallée de la Clarée.
Regarde si on a des migrants dans la voiture.
On va pas les amener par là-bas.
Moi, je suis migrant. Hein.
Sauf que nous étions dans ce coin des Alpes pour une raison bien particulière. C'est ici, à cette frontière avec l'Italie, que des exilés, rescapés du Sahara, de la Libye, de la Méditerranée, bravent les montagnes et les forces de l'ordre pour un avenir meilleur.
Donc ici, vous êtes au paradis du ski de fond. C'est la vallée la plus prisée par les fondeurs, celle qui a le plus de kilomètres de piste aussi. Et puis l'été par la rando, quoi.
Cécile, voilà. Viens par là. Voilà. Vous allez aller avec Cécile, Marc. Tu viens avec Cécile?
Eh bien, c'est parti. Allons-y. La route est longue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes du côté de Névache, dans les Hautes-Alpes, sur une route enneigée. Non loin du col de l'Échelle, c'est par là que des migrants empruntent la route pour passer le col de l'Échelle plus haut à 1762 mètres. Et aujourd'hui, eh bien, en ce 17 décembre, c'est le jour de Cordée Solidaire. Une manifestation dans la neige, ici, pour affirmer que les Alpes ne doivent pas devenir un mouroir comme l'est la Méditerranée pour de trop nombreux migrants. Donc on va suivre ça aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Je travaille pour les radios associatives. Vous êtes là pour la cordée ou...
Ouais.
Vous êtes pisteur vous à Névache comme c'est indiqué sur votre blouson.
Voilà, exactement. Voilà.
Aujourd'hui, pourquoi participer à cette cordée, installer du matériel comme vous l'avez fait, des feux, etc.
Et bah parce que j'ai trouvé pas mal de migrants l'hiver dernier en étant sur les pistes au col de l'Échelle, donc je m'en suis occupé et ouais. Puis du coup, voilà.
Et cet hiver, comment ça se passe? Il y en a d'autres?
Et bah cet hiver, pour l'instant, il n'y en a pas trop, tellement il y a de neige, et j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que là...
Parce que c'est quand vous dites vous espérez qu'il n'y en ait pas, qu'est-ce qui risque, qu'est-ce qui...
Bah avec les quantités de neige qu'il y a, la mort, voilà.
Et vous avez déjà vu des personnes vraiment en grande difficulté, est-ce que vous avez des choses à raconter de ce point de vue ou...
Bah ouais, des gens complètement gelés... Limite, d'avoir des graves gelures irréversibles aux pieds, des gens à 35 degrés de température corporelle, épuisés.
Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, alors?
Eh bien, on les récupère, on les met au chaud, on leur donne un truc de chaud à boire, à manger, et puis on les garde au chaud, et puis on les fait redescendre sur Briançon, et à l'hôpital si c'est nécessaire.
Anne, une habitante de Briançon.
J'ai ramené déjà pas mal de monde, donc si vous voulez poser des questions, Didier il est là, on a ramené du monde ensemble, viens Did.
Et même à cette saison-là en ce moment, il y en a aussi.
Et même à cette saison, on a ramené déjà.
C'est de la folie là d'essayer de traverser à cette saison.
Didier, on a été partenaire de veille sur le col. Ouais, ouais, viens.
Bonjour.
Bonjour.
L'année dernière, on était ensemble au col de l'échelle, fin janvier. Et c'était ma première maraude. Il neigeait, il faisait froid. J'ai dit tout le temps de la monter. Et puis là-bas, Didier, j'ai fait dire, mais il n'y aura personne, c'est n'importe quoi. Pourquoi veux-tu que les gens y passent? On avait de la neige jusqu'ici, de l'autre côté. J'ai dit, enfin, il n'y aura personne, il n'y aura personne. J'ai pas arrêté de lui dire, c'est bien, on se balade, mais il n'y aura personne. Arrivé là-bas, on ne voyait rien sur l'Italie, il neigeait, c'était brouillard. Et je lui ai dit encore, de toute façon, on attend parce qu'on a dit qu'on le ferait, on respecte le protocole, mais il n'y aura personne. Et deux minutes après, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, regarde là. Et là, on a ramené cinq personnes, dont trois n'avaient pas de chaussettes. C'était en chaussures de basket de toile
déjà,
sans chaussettes.
Déjà les chaussettes.
Et qui étaient, pour certains, incapables de marcher seuls. Donc on a essayé de déclencher les secours, on n'a pas réussi. On est tombé sur les secours italiens. Ils parlaient ni anglais ni français, les secours italiens. Donc après, j'ai essayé avec la radio, une fois qu'on est passé un peu plus de ce côté, d'avoir les secours français, mais ça passait pas, ça coupait. Donc finalement, on a réussi en les faisant boire plusieurs fois, manger plusieurs fois, en changeant les chaussettes, mettant des sacs plastiques autour des chaussettes. On a réussi à les faire revenir jusqu'ici. Il y en a qui ont été hospitalisés de suite. Et il y en a un, Ibrahim, je ne sais pas si tu as su, là, il était hospitalisé un an après. Il s'est fait opérer des pieds un an après. Parce que nous, on a estimé que ça allait, il bougeait ses pieds, etc. C'était le début, on l'a mis dans une famille au chaud, la famille s'est bien occupée de lui. Donc pour nous, c'est bon, c'était fait. Ah ouais. Mais en fait, il a eu des problèmes, ses ongles sont
décarnés,
nécrosés. Et donc ça lui faisait des plaies au niveau des pieds, et donc il a été opéré là la semaine dernière.
Cet été, nous avions rencontré Ibrahim avec Ismaël, son compagnon de galère, ainsi qu'avec Yves et Fanfan, le couple qui leur a offert l'hospitalité. C'était sur Radio Autre-Manche, à Villard-d'Arène.
Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ibrahim Diallo. Je viens de Guinée-Conakry. J'arrivais en France ici le 3 février 2017. Le jour qu'on est arrivé, c'est tellement il y a beaucoup de neige, on a eu beaucoup de fatigants sur la route. Mais je remercie l'habitant de Briançonnais, parce que depuis que j'arrivais ici, la situation de Briançonnais, c'est bon. Surtout Yves avec Fanfan.
Ils étaient tellement fatigués qu'ils l'ont un peu oublié, peut-être, mais il y a quand même des gens qui sont allés les chercher au col de l'échelle, quoi. C'est eux qu'on fait le... Grâce à eux, peut-être ils sont encore vivants, parce que c'était quand même le 3 février. L'hiver n'a pas été très violent, mais c'était le jour le plus violent de l'hiver, quoi. Ismaël, il s'était bien débrouillé en Italie. Il avait réussi quand même à récupérer une petite doudoune pas chaude. Mais Ibrahim, il était à peu près comme ça, avec juste un coupe-vent tout fin, et il était pieds nus dans ses baskets. Avec eux, il y avait trois mineurs. Il y en a un qui a quand même passé une semaine à l'hôpital. Bon, ses gelures sont réglées et tout. On l'a vu. Un des plaisirs qu'on a eu à aller à Gap devant la préfecture, c'est qu'on l'a retrouvé là. Et il était en pleine forme. Apparemment, il est dans une famille aussi. Il est bien accueilli. Donc voilà, ça s'est bien terminé. Mais ça aurait pu être quand même catastrophique, quoi.
Qu'il soit arrivé là, c'est grâce à Ismaël qui avait vraiment la grosse caisse physique, quoi. C'est vraiment un gros sportif et il a réussi à faire la trace à tout le monde jusqu'en haut. S'il n'avait pas été là, je pense qu'il serait resté sur le côté versant. Ils sont pas en Italie, ils sont en France, mais sur le versant italien du col, on va dire. Il serait pas arrivé là. Et après, quand ils sont arrivés dans le tunnel, déjà pendant une demi-heure, nous on s'est affairés comme des fous. On les a déshabillés, on a remis des chaussettes, on a séché, on les a hydratés, on leur a donné à manger. On n'a pas arrêté, quoi. Vraiment, et on a relevé la tête et on a dit qu'il faut y aller tout de suite. Donc là, ça a duré sûrement une demi-heure. Pour arriver jusqu'à la cabane, on a dû mettre encore une petite heure parce que ça brassait. Il y en a qui n'arrivaient plus à marcher. On essayait de joindre les secours, ça ne marchait pas toujours. On a réussi à rentrer à la cabane, donc une heure, on s'est reposé une demi-heure, on avait préparé le feu et tout ça, c'était chaud, on les a à nouveau hydratés, redonnés à manger, et après on s'est dit une demi-heure, si on reste une heure et demie là, il y en a qui repartent pas, donc on est reparti, vu qu'on n'arrivait pas à joindre les secours, on est reparti pour arriver jusqu'à Nevache, quoi. Donc ça a duré, je sais pas, avec eux ça a duré deux heures et demie, peut-être plus, même trois heures, on se rend pas trop compte en fait, on n'a pas trop regardé là, c'était tard dans la nuit quand on est rentré. Ouais.
Bonsoir à tout le monde.
Radio Autre-Manche.
Je m'appelle Ismaël Konaté.
3 juillet 2017.
Je viens de Guinée-Conakry. Nous sommes venus pour le col de l'échelle en plein hiver. C'était tellement difficile parce que c'était la première fois de voir la neige parce que nous, on ne connaissait pas la neige, on ne connaissait pas tellement les dangers. Donc, on avait porté le basket avec certains habits, nos chaudes. Donc, on a pris la route de venir à Briançon. Je suis très, très content des habitants de Briançon, surtout Yves et Fanfan. Ils nous ont beaucoup, beaucoup accueillis.
Voilà. Puis après, on vous raconte une histoire, mais c'est toutes les nuits, en fait. Et moi-même, je n'y croyais pas et j'ai un peu rigolé quand mes copains m'ont dit « faut qu'on fasse ça ». Mais c'est là, c'est chez nous, c'est toutes les nuits, c'est à une demi-heure de chez nous. Et peut-être qu'au printemps, quand on va revenir, il y a des gens qui sont déjà morts et dont les corps sont déjà sous la neige. C'est ce qu'on se dit, nous, tout le temps.
Est-ce que ça veut dire que vous arrivez à organiser des maraudes chaque nuit ?
On essaye, il y a des soirs où on n'a personne et on ne dort pas bien. Il y a des soirs où, moi, il y a un soir, il y en a 8 qui se sont cachés devant moi, j'en ai ramené 6. Il y en a 8 qui se sont cachés devant moi, je suis retournée 2 heures après, donc j'ai ramené les 6 en bas. J'ai donné du thé, j'ai donné à manger, j'ai changé les chaussettes, je les ai mis au lit dans notre foyer de solidarité. Je suis remontée 2 heures après, j'ai réappelé, j'avais rappelé d'autres amis en renfort, on s'est répartis sur le col de Montgenèvre. Moi, au bout d'une heure et demie, j'étais fatiguée, je suis rentrée me coucher, les autres sont restés encore une partie de la nuit, on les a jamais retrouvés. Est-ce que la police les a récupérés, les a ramenés en Italie ? Peut-être. Est-ce qu'ils sont quelque part dans la montagne ? Peut-être. Je ne sais pas où ils sont, ces 8-là. Je les ai vus s'enfuir devant moi, je ne sais pas où ils sont. Et sur le col là, c'est pareil, il y a des fois on passe, ici ils ont peur de nous, ils vont se cacher, ils vont rester immobiles le temps qu'on passe. Donc nous on essaye de parler un peu, voilà, de donner des termes aussi en guinéen, de leur dire qu'on est là pour les aider, que s'ils ont besoin, on est là pour vous aider, venez, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qu'on sait de leur réaction ? Et s'ils ont décidé qu'ils se cacheraient ? Eh bien, peut-être qu'ils sont cachés et qu'ils sont cachés. Bah, à un moment donné, voilà, tu t'affaiblis, tu ne bouges pas, tu ne te relèves pas. Voilà. Donc c'est vrai que même nous, on était sceptiques parce qu'en tant que gens qui pratiquons la montagne, professionnels ou pas, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. On ne peut pas imaginer que 2 nuits sans chaussettes, en jean, avec des gants de laine tout fins et troués. Hein. J'ai encore les gants, je les ai encore à la maison. C'est des gants qui sont tout troués, les doigts, ils sortent. On puisse s'aventurer comme ça, on ne peut pas l'imaginer. Mais en fait, quand les gens ils commencent à avancer, ils quittent Bardonecchia, il y a 4-5 cm de neige ou 2 cm de neige, ou même il pleut. Et donc ils avancent. Mais au bout de 2, 3, 4 heures de marche, quand vous vous retrouvez avec la neige jusqu'aux chevilles, vous commencez à avoir froid. Vous vous dites, si je fais demi-tour, vers quoi, vers où, pourquoi je vais me retrouver dans la rue, il fait aussi froid, je vais mourir. Enfin, ils n'ont aucune issue en faisant demi-tour non plus. Et ils se retrouvent, la neige monte au-dessus des chevilles, mi-mollet, au-dessus des genoux. Et plus ils avancent, plus c'est compliqué de faire demi-tour. Et ils n'ont pas idée non plus qu'on peut être amputé des pieds. Ils n'ont pas idée que la neige, le froid, c'est irréversible. Pour eux, ils disent, je me réchaufferai après. Donc même s'ils souffrent, même s'ils ont mal, ils ont vu d'autres souffrances. Ils se disent, je me réchaufferai après et j'avance. Et ils s'encouragent, ils se disent, ça va aller. Sauf que des fois, ça ne va pas. Et il y en a un donc, qui a perdu la moitié de ses pieds, un de ses deux pieds, un autre qui a perdu la moitié de ses deux mains. Et que nous, toutes les nuits, même là, que le col de l'échelle est infranchissable, on a des gens qui arrivent par le col de Montgenèvre toutes les nuits, par douzaines. Et même par Montgenèvre, où il n'y a pas ces problèmes de neige haute, quand vous marchez 3, 4, 5 heures dans la neige, qu'il y en a un qui tombe, qu'il faut l'attendre, que vous restez immobile, quand on les récupère, ils sont aussi dans un sale état.
Mon corps, ça va beau. Sabana Ninduru, Woro Wolon Fila Shegi Konantan.
san kelen fila saba nani duuru woro wolon fila segi kɔnɔntɔn olu bɛ san kelen fila saba nani duuru woro wolon fila segi kɔnɔntɔn.
L'artiste malienne Fatoumata Diawara qui chante clandestin en langue bambara. Depuis la gare de Bardonecchia en Italie, ce sont 13 km qu'il tente de franchir jusqu'à Névache, en ce moment dans la neige, et 30 en tout jusqu'à Briançon. Hormis les risques de la montagne, ils doivent faire face aux forces de l'ordre qui patrouillent à la frontière et qui n'hésitent pas trop souvent à les ramener en Italie de manière totalement illégale et parfois en les laissant au milieu de nulle part. On va poursuivre notre balade sur cette cordée solidaire organisée dans les Hautes-Alpes ce 17 décembre avec Anne, cette habitante de Briançon rencontrée en première partie de reportage.
On a de la chance, aujourd'hui il n'y a pas de vent, il y a du soleil. Ah oui. Mais vous avez vu quand même comme on avait froid, la petite demi-heure où on a attendu en bas. Immobile, on est très bien équipés. On a mangé, je pense, tous à notre faim. On a dormi à peu près correctement. On n'a pas eu un épuisement physique de mois et d'années précédentes.
On a des chaussettes chaudes.
On a des chaussettes chaudes. Il y en a qui ont été en esclavage pendant les mois et les années qui ont précédé, qui sont physiquement malades, affaiblis, épuisés. Et ils sont dans des conditions où nous-mêmes, bien nourris, bien reposés, on est en souffrance. Donc c'est compliqué, c'est compliqué.
Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. La température, elle est... Hein, parce qu'il y a des jours, c'est moins 20 ici.
Ah ouais. Ouais, c'est ça ? Ouais, super. Bah, je vous explique un petit peu, mais il y a les autres qui arrivent. On a reçu un appel radio, c'est pour ça que je suis partie un peu en courant devant pour prévenir mes collègues. Mais ça s'est bien passé avec la radio, donc il y a une équipe qui est partie. Donc vous avez vu à la fin de notre discussion, il y a Bruno qui est venu me faire la bise là, qui était en bleu et noir. Vous avez pas vu ? Si. Il est pisteur secouriste sur le domaine de ski de fond. Et donc il a reçu un appel de personnes qui sont au niveau des tunnels, donc en France, hein, mais sur le versant un petit peu derrière. Et qui appelait au secours en disant qu'ils étaient là-bas et qu'ils étaient mal. Donc je suis vite passée devant pour voir, déjà pour parler à la radio en même temps, mais si personne ne pouvait y aller pour prendre de l'avance. Mais mes collègues ont reçu mon message à la radio où je leur signalais exactement ce que je viens de vous dire. Et donc il y a trois personnes qui ont laissé le groupe à d'autres collègues et qui sont partis vers les tunnels pour essayer de retrouver ces personnes et qui ont prévenu le PGHM, donc c'est les gendarmes de haute montagne, le secours en montagne. En leur disant, on va essayer de les trouver, tenez-vous prêts, suivant ce qu'on trouve, on vous dit s'il y a besoin de vous ou pas.
L'assistance à personne en danger remise en question. En tant que professionnel de la montagne, nous considérons que toute personne se retrouvant dans ces conditions est en détresse et que sa vie est en danger. Notre devoir de professionnel est d'alerter les pouvoirs publics sur les risques objectifs encourus en montagne avant que l'irréparable ne se produise encore et de demander le retrait des forces de l'ordre à la frontière, présence qui peut amplifier ces risques. Car les migrants, en essayant d'éviter les forces de l'ordre, se cachent, s'épuisent, se refroidissent, choisissent des hors-sentiers et exposent d'autant plus leur vie. Les personnes voulant user de leur devoir d'assistance à personne en danger ne le font plus car elles sont inquiétées par les forces de l'ordre. Ainsi, les migrants sont laissés en détresse. Nous demandons donc au pouvoir public de laisser les citoyens et les professionnels user de leur devoir d'assistance à personne en détresse et en danger en toute sérénité. De retirer les forces de l'ordre des frontières alpines pour limiter les accidents. De ne plus reconduire à abandonner les migrants épuisés dans le froid côté italien.
Ouais, c'est l'hélicoptère du PGHM qui vient de passer donc pour aller chercher les migrants qui ont été signalés dans le tunnel juste derrière le col de l'échelle, comme vous avez pu l'entendre précédemment. Les secours sont en route. Et pour ce qui est de la cordée solidaire, eh bien, elle va se rediriger en bas pour se retrouver autour d'un feu de camp et d'un pique-nique, histoire de continuer à discuter de ce qui se passe ici et de quelles réponses à apporter en termes de solidarité. C'est quand même un succès hein, avec 300 personnes qui sont venues ce dimanche 17 décembre jusqu'ici.
Des professionnels de la montagne nous ont sollicités en tant que tous migrants pour faire cet événement aujourd'hui. Ils sont inquiets qu'au printemps on retrouve des morts, ils sont inquiets que comme aujourd'hui il y ait des jeunes qui essayent de passer dans des conditions hivernales avec les risques encourus en termes d'avalanches, de gelures, etc. Mais aussi parce qu'ils ne sont pas équipés, parce qu'ils peuvent s'épuiser, parce qu'ils ne connaissent pas l'itinéraire. On appelle brièvement à une démobilisation des forces de l'ordre au niveau des cols et aussi une démobilisation des forces de l'ordre pour laisser aux gens, que ce soit les professionnels, des citoyens ou toute autre personne qui prendraient les migrants dans leur voiture et qui en fait font uniquement de l'assistance à personnes en détresse et en danger. Aussi pour vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'ils sont passés, il y a l'hospitalité derrière et c'est une grosse partie de leur cheminement parce qu'ils ont encouru déjà beaucoup de dangers, mais quand ils arrivent en France, ils sont encore loin de trouver une sérénité, donc faut pas hésiter à se mobiliser pour ça également.
Moi qui habite Névache, on est sur un gros truc de solidarité, ça y a pas photo. Et on est jusqu'à une trentaine de gens qui se bougent. On s'est bougé spontanément, progressivement, au fur et à mesure des arrivées. Parce que ce qui est spectaculaire quand même, c'est la cadence des arrivées. Quoi. Et ouais, on est très inquiet ouais. sur la suite, quand tu vois le tas de neige, quand tu vois les
difficultés. Y compris en plein hiver.
Ah ben, il y a eu un appel tout à l'heure, si tu veux, ouais. De demande de secours. Là, hein. Les gars, ils vont passer, enfin les gars et les filles, parce qu'il y a quand même des filles qui passent aussi.
Alors, quelle que soit la météo, il y a des équipes qui essayent de les dissuader ouais. à la gare de Bardonecchia. Mais il y en a qui échappent à la dissuasion. Et en fait, notre rôle, il est aussi un peu à double ambivalent. Parce que si quelqu'un essaye de les dissuader, ils vont essayer de contourner cette personne, de passer à travers champs. S'il y a des gens en bas du col qui leur disent ne passez pas, eh ben, ils vont passer dans une pente enneigée. Même nous, quand on les trouve, ils peuvent avoir peur de nous. Hein, c'est ce qui était le cas. Bon, nous, ils n'avaient pas le choix. On était sur une rue étroite, il y avait le ravin, un chemin étroit, il y avait le ravin d'un côté, la falaise de l'autre. Donc on s'est retrouvés nez à nez. Mais ils nous ont dit on a eu peur. La première réflexe, c'est qu'on s'est mis accroupi, on avait peur de vous, on ne savait pas qui vous étiez. Donc ils ont peur de la police, ils ont peur d'être renvoyés en Italie. Les derniers que j'ai ramenés là, il y en a un, ça fait 7 nuits qu'il n'a pas dormi. 7 nuits qu'il n'a pas dormi parce qu'il dort dehors en Italie. Et donc au bout d'un moment, soit tu meurs dans la rue, soit tu te dis je fais quelque chose. Ce quelque chose, il n'est pas forcément cohérent et réfléchi parce qu'ils n'ont pas de connaissances ni de la montagne, ni des lois. Mais simplement, si tu restes sur place, tu meurs. Donc il faut bouger, il faut avancer.
Et ils vont passer, hein, et peut-être que faire la trace peut rendre service.
Et quand vous dites à Névache, on se bouge, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que vous faites pour...
Concrètement, si tu veux, déjà, on voit les migrants taper à nos fenêtres, taper à nos portes le soir, parce que quand tu descends après la chapelle ici de Bonne Rencontre, les premières lumières qu'ils voient sont celles du village de Névache. Ouais. Donc ils se dirigent par là. Et après, à Névache, ils vont toquer à la porte où il y a de la lumière. Alors ça peut être chez moi, ça peut être chez Bernard, chez Paul, chez Jacques, enfin tout le monde, quoi. Ouais. Et puis après, quand il est 20h, qu'il fait mauvais temps, que toi, tu as déjà eu froid dans ta balade de la journée, n'oserais pas dire non. Donc tu ouvres la porte, bonjour, au revoir, rentrer. Bon, on est soucieux de les réchauffer, mais pas brutalement hein, par rapport aux gelures. On est soucieux de les changer carrément d'habit, et y compris par rapport à un problème qu'on a découvert qui est la gale, hein, qui n'est pas insurmontable, il faut juste en être conscient. Puis après, ben, on leur donne à manger, on les réchauffe. On a l'impression qu'il leur faut à peu près 2 nuits pour retrouver un certain calme, que nous, on extériorise, mais c'est pas... Après, ils veulent poursuivre. Chacun fait son petit boulot. Il y a des jeunes filles, elles font que nettoyer le linge. Mais c'est super important, ça. Dans le métier, on dit à chacun son Everest. Hein. Ce matin encore, il y a des gens qui m'ont donné des habits là, au parking pour les migrants. Et on a beaucoup d'affaires, ça va, c'est super, ça. On a beaucoup d'affaires, on a beaucoup de... Et en plus, le lien avec Briançon, avec ce que j'appelle le camp de base, moi, le refuge de Briançon, il n'y a aucun problème si on manque de couverture, on peut habiller des migrants. Hein. Ils repartent à neuf au niveau habits, au niveau sac à dos, voilà quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres besoins, des besoins de nourriture?
Non, mais au niveau nourriture, c'est pareil. Et puis, il y a des gens qui nous prêtent des chalets, il y a des dons qui arrivent, grâce justement à vous, avec la presse, Et ça, c'est fabuleux, quoi.
Edoui Plenel de Mediapart. Alors Edoui Plenel, je peux vous demander qu'est-ce qui vous amène ici jusque sur les pentes du col de l'Échelle ?
Soutenir les montagnards qui ont pris le relais des marins. Les marins, c'était ceux de SOS Méditerranée, ils sont toujours là, qui disaient quand quelqu'un est en train de se noyer, on ne lui demande pas s'il est un migrant économique ou un réfugié politique, on le sauve tout simplement. Et après, ils disaient, nous, au fond, on sauve notre âme, on sauve l'âme de l'Europe. Eh bien, les montagnards, ici, dans leur rendez-vous avec le devoir d'hospitalité, avec la solidarité avec tous les demandeurs de refuge, qui ne demandent que de vivre dignement, libre, honnêtement, eh bien, pour moi, ils sont l'honneur de notre pays. Ils sauvent la France, ils sauvent l'Europe.
Et comment, avec Mediapart, alors, vous pouvez... vous engagez pour accompagner cette solidarité ?
Nous sommes engagés sur cette question des demandeurs de refuge, des migrants, des exilés et des réfugiés depuis la création de Mediapart. Nous sommes un journal sans frontières, au rendez-vous de ce monde interdépendant où l'humanité a le droit de se déplacer. C'est un droit fondamental. L'humanité n'est pas assignée à résidence. Il y a parfois un hasard malheureux de la naissance. On a le droit de quitter le pays où on est né. On a le droit de choisir le pays où l'on veut vivre librement. Et de ce point de vue, Mediapart, cet été, sous ma plume, a fait l'éloge du devoir d'hospitalité. C'est devenu un petit manifeste qui est publié aux éditions Bayard et qui est un peu le manifeste de cette cause commune qui nous rassemble aujourd'hui en solidarité, encore une fois, avec tous ceux qui ne sont pas du côté de l'irréalisme. La réalité... Le réalisme, les solutions, les réponses durables, elles sont ici. Ce sont nos gouvernants qui sont irréalistes. Ce sont eux qui ne voient pas comment le monde va aujourd'hui. Ce sont eux qui essayent d'inventer des barrières qui ne tiennent pas et qui, loin de sauver l'humanité, rendent encore plus difficile son ébranlement, son mouvement.
La Méditerranée, les armées, les barbelés, les murs ne stoppent pas des personnes qui fuient leur pays. La montagne ne les stoppera pas non plus, surtout qu'ils en ignorent les dangers. Les professionnels de la montagne refusent que les Alpes deviennent le cimetière de ces personnes en détresse. C'est pour ça qu'on lance un SOS Alpes solidaires.
Pour moi, être ici, c'est aussi dire que c'est l'avenir. Ce sont les réponses. Nous sommes les réalistes.
Alors pourquoi vous faites le choix de cet engagement quand d'autres prétendent que le journalisme, ça doit être une pratique neutre, une pratique objective ?
Depuis Albert Londres, Albert Camus, Hubert Beuve-Méry, pour citer quelques grandes figures de notre métier, le journalisme, comme nous ici, il marche sur deux jambes. Une jambe, c'est être au rendez-vous du droit de savoir, le droit de savoir fondamental des citoyens, connaître tout ce qui est d'intérêt public, c'est ce travail de révélation, d'investigation, d'enquête, et Mediapart en est l'emblème. Mais si on ne fait que ça, On oublie l'autre jambe. L'autre jambe, c'est d'être au rendez-vous de la société, au rendez-vous de ses défis, au rendez-vous de la complexité du monde. Ne pas être du côté des haines, des peurs. Le journalisme, c'est apporter de la nuance, apporter de la complexité, apporter des détails, des précisions. Et donc, pour moi, le journalisme, le combat d'Albert Camus, le monde d'Hubert Beuve-Méry, les reportages d'Albert Londe qui dénonçait la servitude et le travail forcé dans Terre d'Ébène, en Afrique occidentale française, eh bien, c'est cela, c'est ces deux jambes-là. Et rappelez-vous qu'Albert Londe, en révélant qu'il y avait cette oppression qui démentait tous les principes des droits de l'homme dans les colonies françaises en Afrique, il termine en s'adressant au ministre des colonies, il dit « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Et donc, nous, Mediapart, on marche sur deux jambes. D'un côté, ce journalisme de fait, et de l'autre côté, ce journalisme d'idées.
On vit une putain de belle aventure, toi. Franchement, c'est une belle aventure.
Pourquoi belle aventure alors? Parce que quand on évoque tout ça, on pense tout de suite aux drames qui peuvent arriver. Il y a des gens qui ont déjà eu des graves soucis de santé à cause de ces gelures, voire des amputations. Est-ce que vous ne vivez pas dans la peur de retrouver des cadavres aussi? Alors pourquoi belle aventure?
Non, la belle aventure, je te parle au village.
Ouais. Mais qu'est-ce que ça crée au village alors?
Ça crée de la cohésion.
Ouais.
Ça crée de la cohésion. Et moi qui suis à Nevache depuis 42 ans, c'est une terre de combat ici. Hein. Depuis Émilie Carle, on s'est battu sur plein de trucs qui pouvaient détériorer notre vallée. J'ai fait un inventaire, moi, des difficultés techniques, des problèmes auxquels pouvaient être confrontés les migrants. Le catalogue, il est plein. Entre la déshydratation, entre l'hypothermie, entre la faim, le froid, plus la peur du gendarme. Donc non, là, il y a carton plein. Hein. Donc, voilà.
Ouais.
Et malgré ça, on est inquiet parce que dans les campos en Italie, il y a beaucoup de monde. En Libye, ils sont à peu près 400 000, d'après nos infos. Si tu veux, il peut y avoir une arrivée massive, quoi. Parce que ce qui nous surprend quand même, c'est la cadence, quoi, d'arrivée, quoi. Globalement, c'est des jeunes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'obèses. Hein.
C'est combien par jour, par semaine?
Depuis le 1er juillet, c'est 1600, 1800 migrants à Briançon.
Ouais.
Parce que tout n'arrive pas par là. Hein. Nous, la cadence, c'est... C'est 4-10 par jour, quoi.
On ne s'est pas présenté, moi je suis Pierre de Radio Zinzine, et toi du coup
Ouais, Jean-Gabriel Ravary, moi, guide à Nevache.
On apprécie le citron, on peut jeter la peau.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit.
On peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique. Sénégal, Mauritanie, Burkina, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et... Tutti quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans...
L'harmonie.
Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, qu'on l'a bien ratissé, qu'on lui a tout pris.
Mamadou m'a dit.
On a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit.
On peut jeter la peau, eh ouais. Sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre. Sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts.
Mamadou m'a dit.
On apprécie le citron, on peut jeter la peau.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit.
On peut jeter la peau.
Mamadou m'a dit.
On apprécie le citron, on peut jeter la peau.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit.
On peut jeter la peau. Eh ouais, on presse le citron, on Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis. Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour ne pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur face montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Et encore plus au cœur. Et comme il faut parfois manger et puis dormir, dans les foyers taudis, on vit dans le sordide. On a pressé le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau. On a pressé le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau. Et puis un jour la crise nous envahit aussi. Qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux. Qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez, monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes. Ils retournent faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Ce sont de vrais gamins. On a pressé le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau, ouais ouais. On a pressé le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau, ouais ouais.
Mamadou Madi, une reprise de François Béranger par Raoul Petite.
Oh putain, quel bordel, c'est pas possible, ça finira non jamais.
On rencontre Cédric Héroux sur cette cordée solidaire de Névache en ce 17 décembre. L'agriculteur de la vallée de la Roya nous livre son analyse sur la solidarité en cours dans le Briançonnais.
Briançon, c'est la Roya il y a en 2016 en fait.
En fait, elle a par rapport à la solidarité aussi.
Je vois qu'il y a une bonne mobilisation, hein, carrément. Ouais, ça fait plaisir. C'est l'État qui oblige les citoyens à devenir des militants, en fait. On oblige des. Puis l'esprit de la montagne, le montagnard, on a conscience du danger. Hein. C'est un peu comme le pêcheur avec l'océan. Il aime l'océan, mais il connaît ses dangers. Mm-hmm. Et quand il va voir quelqu'un, n'importe quelle sa couleur de peau ou son origine, où il va l'aider, parce que c'est la règle, en fait. Mm-hmm. Soit sur la mer ou en montagne, c'est la règle. Et on oblige des gens, en fait, à devenir militants. En fait, l'État prend des gens en otage, quoi.
L'État, qu'est-ce qu'il devait faire maintenant dans cette situation?
La fermeture de frontières, c'est une bêtise, du moins sur l'Europe, parce que les gens ne les arrêtent pas. Le pire des cas, quand on les arrête, c'est qu'on les tue, en fait. C'est qu'ils n'ont arrêté personne avec leurs frontières. Parce que normalement, en fait, les contrôles de police à la frontière sont là pour faire la lutte antiterroriste.
Bah oui, c'est depuis 2015.
Voilà. Et là, on est en train de créer de la terreur, déjà, et de la terreur manifeste en ce moment. Et puis les jeunes, comment ils vont se comporter dans la violence qu'ils sont en train de créer dans 10 ans, dans 15 ans.
On retrouve Jean-Gabriel Ravary, guide à Névache, pour des histoires de frontières, de résistance et de solidarité montagnarde.
Les montagnes ici ont été longtemps frontalières. Ah. Et on a beaucoup de blocos à droite, à gauche ici.
Ouais.
Et pendant notre Deuxième Guerre mondiale, contre Mussolini, tu as des maquis qui sont arrivés ici, et ceux du bataillon de Berthier, et d'autres du 99e RIA, et qui ont habité longtemps dans les différents blocos. Il y a les résistants, la famille, a choisi de leur adresser une stèle. Et maintenant, la partie qu'on appelle vallée étroite, la vallée Stretta, a été donnée à la France en 1947 au titre des dommages de la guerre.
Les actualités françaises du 20 février 1947.
Les traités de Paris ont rendu à la France Tende, la Brigue et la haute vallée de la Roya. Et Lancebourg au pied du Mont-Cenis, Lancebourg que les Allemands en partant ont presque totalement ruiné, a poussé un grand soupir de joie.
Lens-le-Bourg, un village savoyard à 50 km de Névache.
Sur cette petite place cernée de murs crevés, où le monument aux morts semble plus simple et plus triste que partout ailleurs, ce qui reste des habitants du pays a voulu marquer en salvant ses morts cette heure qui rend à Lens-le-Bourg ses pâturages communaux que la bonne volonté de la France avait en 1860 laissé pour ses chasses au roi Victor Emmanuel II. C'est que les 5000 hectares du plateau du Mont-Cenis, dont Lens-le-Bourg est copropriétaire, sont pour trois communes françaises la terre nourricière. C'est là que de tout temps leurs troupeaux passent l'été, c'est de là que leurs familles tirent leur subsistance et le pain de leurs enfants. Tout cela, après une injustice de 87 ans, leur revient aujourd'hui. Une belle journée pour Lens-le-Bourg.
Dans le même élan, la vallée étroite a été cédée à la France. Initialement, avant 1947, la frontière était marquée par le col de l'Échelle. Avec les compensations de guerre prévues dans le traité de Paris, des territoires frontaliers ont été cédés par l'Italie à la France. C'est le cas de la vallée étroite et du versant abrupt du col de l'Échelle, côté versant italien, qui ont été intégrés à la commune de Névache.
La vallée étroite, si tu veux, elle est totalement propriété italienne, enfin les terres, les terrains, les maisons, mais elle est sous administration française.
D'accord.
Et la chose surprenante, c'est que le seul accès toute l'année, il est italien. C'est-à-dire le Mont-Genèvre et après Bardonnèche.
De cette mémoire-là à aujourd'hui, cette situation qui se passe dans le col de l'Échelle et dans la vallée, quel parallèle vous en faites? Qu'est-ce que ça vous inspire?
En fait, je le dis souvent, moi, mon livre de chevet, c'est Les Montagnards de la Nuit de Frison Roche. Sauf qu'eux, ils ont vraiment, vraiment risqué gros, quoi. Pour nous, notre génération, qui heureusement n'avait jamais connu de conflit en France, c'est des exemples à suivre. On s'aperçoit que des gars qui étaient critiqués au départ ont été adulés quelques années après, quoi. Donc, si tu veux, il suffit de lire l'affaire de Moulin, l'affaire des Aubrac, enfin des personnes, quoi. Et au niveau des montagnards, parce que c'est ce qui nous intéresse, dans l'histoire de l'alpinisme, moi, je suis guide d'haute montagne. Moi, j'ai des idoles, c'est Lionel Terray, les conquérants de l'inutile, tu vois. Et là, on est en train de faire ça aussi. Enfin, c'est pas inutile, pardon. Ouais. Mais il y a eu des belles choses pendant nos guerres mondiales. Je pense, par exemple, quand les guides français rencontraient des guides allemands ou des guides italiens, bon, ils se tiraient pas dessus. C'est bon, je t'ai vu, pas vu, pas pris, quoi. Il y a eu des belles choses, quand même.
Parce qu'il y a cette solidarité montagnarde qui dépasse les frontières, alors ?
Ah oui, c'est évident, c'est évident. Enfin, moi, je fais partie aussi d'une organisation qui s'appelle Union internationale des associations de guides de montagne, qui rassemble 28 pays au monde.
Donc, moi, c'est Joël, je suis guide de haute montagne sur Briançon.
Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe, que je vous vois avec le takiwaki dans la main?
Alors, c'est une radio.
C'est
une radio.
Ouais.
Et donc, a priori, il s'agirait d'une personne là, qu'ils ont découvert dans les tunnels côté italien, mais j'ai pas plus d'infos pour l'instant.
D'accord, oui, puisqu'on a vu passer l'hélicoptère du PGHM. Ah, peut-être ça va venir.
Oui, on te reçoit fort et clair. Appeler l'hôpital qui leur dit que dans 5 minutes on a ramené une personne terrorisée avec probablement les blessés.
T'as entendu, c'est le pilote, ça, là, qui a récupéré des gens avec les pieds gelés, et il demande au secours de prévenir l'hôpital. Donc tu vas voir l'hélico qui va arriver, déposé sur le toit de l'hôpital, prise en charge immédiate par les chirurgiens et tout ça. Puis après, ce qui se passe...
Pour Juliette, là, tu peux nous dire où il se trouvait, à peu près, là, la victime, là? En fait, deux lacets, enfin un lacet, donc deux portions de route en dessous des tunnels. Elle n'était pas juste dessous les tunnels, elle était encore en dessous, entre deux routes, elle tapait droit dans la pente, en montant.
Ok, ça marche. Pas d'autres personnes sur les lieux.
Il y a pas mal, on a vu un groupe de deux ou trois personnes en raquette sur le col, sur le plat du col de l'Échelle. Et ceux qui nous appelaient et qui faisaient signe, là, qui ont signalé, c'est 4 personnes qui étaient juste à la sortie du tunnel en descendant.
Et ça, c'est le 112. Voilà.
Numéro de secours.
Ouais. Alors là, la suite...
Comment ça fonctionne, ce 112?
Alors le 112, par exemple, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu les gens, il y a une heure, grimper dans le col de l'Échelle versant vallée étroite, enfin versant italien, et ils en ont conclu que ces gens étaient en difficulté, apparemment des migrants, parce que ça se reconnaît quand même, et en fait la personne a eu l'idée de contacter le 112, le secours, Le 112 fait un peu le point de la répartition de... Voilà. L'hélico a posé des secouristes à proximité des personnes, des sinistrés, je dirais, ou des victimes. L'hélico se décolle plus loin. Les gars du secours, que ce soit les PGHM, les gendarmes ou les CRS, suivant la semaine de permanence, s'approchent de la personne. Voilà, bon, les pieds un peu les pieds gelés, si, ils font un diagnostic.
Mais là, ils sont repartis avec un mec, quand même.
Les secouristes, quand ils sont prêts à évacuer, rappellent l'hélico. Là, l'hélico fait une approche, ils embarquent. Et l'hélicoptère, tu vois, vient de passer. Et il a demandé à son centre téléphonique à Briançon de prévenir l'hôpital, qu'ils allaient se poser sur le toit de l'hôpital et d'agir en première urgence, en toute urgence, parce que les secouristes, sur les lieux, ont diagnostiqué des pieds gelés. D'accord. Donc après, si tu veux, là, l'hélico s'arrête sur le toit de l'hôpital. Tout de suite, le système chirurgie, enfin orthopédique d'urgence de l'hôpital se met en route pour soigner les gens. Voilà. Et là, on a une démonstration comme quoi ça marche bien et que ce type de gendarme, parce que l'hélicoptère est gendarmerie, même si c'est pour embarquer les CRS dedans, peu importe, mais là, ça fonctionne et on remercie le secours en montagne, ce type de gendarme. Mais on critique pas trop les gendarmes qui nous arrêtent tous les jours.
Est-ce que l'information passe du côté italien aux migrants qui voudraient tenter la traversée sur, ben justement, il y a un numéro de secours, si jamais vous êtes en difficulté?
Après cet événement, là, aujourd'hui, qui est une réussite, il est prévu, effectivement, de faire une espèce de fiche technique avec des recommandations par rapport aux avalanches, l'hypothermie, l'hypoglycémie, le gel, enfin tout ce que tu voudras. Mais après, est-ce qu'ils en tiennent compte? C'est comme si tu leur disais en partant de chez eux, va pas traverser la Libye, va pas traverser la Méditerranée, quoi. On peut avoir bonne conscience d'avoir fait notre boulot, parce que moi, en tant que guide, si tu veux, je trouve que c'est une honte qu'on... cette démarche de les refouler. Là, j'arrive pas au bout. Là, t'as 1m30 de neige. Là. Et là, j'arrive pas au bout. Donc, en plus, c'est de la neige qui est tassée. Ça veut dire que la personne, elle peut être coincée. Et ça peut être quelqu'un qui est polytraumatisé. Il peut avoir un bras de cassé, une jambe de cassé. Ce qui n'est pas grave. Mais c'est les conditions d'enneigement, le froid, etc. C'est les conséquences de la situation qui font que c'est grave. Si là, par exemple, à cause d'une petite coulée où ils ont peur, ils vont partir là. Et là, tu veux, toute cette bande là, qui n'a pas d'amarrage d'arbres, de rochers, ça, c'est une pente qui va partir.
Il y a une belle pente.
C'est
là,
eux qui risquent de déclencher le truc.
À combien elle est à peu près,
cette pente? Là, elle est à 40 degrés, quoi. Ouais. Et toute pente au-dessus de 30 degrés est dangereuse.
Ouais.
C'est de la physique, que ce soit un tas de gravier, un tas de sur, 30 degrés. Et c'est vite atteint, 30 degrés. Et de l'autre côté, côté vallée étroite, c'est beaucoup plus grave parce que c'est une pente uniforme. Et là, il n'y a pas de ce qu'on appelle des amarrages, c'est-à-dire il n'y a pas d'amarrage du manteau neigeux, c'est-à-dire des gros cailloux, des arbres. C'est carrément une pente uniforme et qui peut se déclencher au passage de quelqu'un. Voilà. Il y a quand même des drames
Est-ce que vous en avez déjà récupéré sous des avalanches?
Alors, des gens, oui, mais pas des migrants.
5 mars 2016. Mamadou, jeune malien, a vécu l'enfer au col de l'échelle. Pris dans une tempête de neige et des températures glaciales, il a été amputé des deux pieds. Sa tenue, un blouson en sky, un jean, des baskets. Avec son ami, ils ont affronté des conditions extrêmes. Je cite, « On avait de la neige jusqu'à la taille, il faisait très très froid, on n'avait pas de gants. » Le 19 août 2017, Ibrahim et Moussa ont été grièvement blessés au col de l'échelle. Effrayés par une voiture des forces de l'ordre, c'était au passage des deux tunnels, les deux jeunes ont dévalé un ravin de 40 mètres. Aujourd'hui choqués psychologiquement, Ibrahim est partiellement paralysé après être resté dans le coma durant 3 semaines. Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2017, il n'y a pas très longtemps, donc, après une journée continue de chute de neige, 4 jeunes se retrouvent bloqués au col de l'échelle. Ils sont découverts en pleine nuit, frigorifiés, par des randonneurs nocturnes qui déclenchent immédiatement les secours en montagne. Les 4 personnes sont amenées à l'hôpital de Briançon. Chaque semaine, des migrants en hypothermie, avec des gelures aux pieds et aux mains, arrivent à Briançon. Ils risquent d'avoir des séquelles à vie. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que aujourd'hui même, plusieurs migrants étaient en difficulté au col de l'Échelle, donc en difficulté, donc en danger, et ils ont été secourus par hélicoptère. Certains risquent d'y laisser leur vie, si ce n'est déjà fait.
L'association Tous Migrants et 130 professionnels de la montagne lance un appel SOS Alpes Solidaires. Il est à retrouver et à soutenir en ligne. Ce dimanche 17 décembre, alors que se tenait cette cordée solidaire, c'est Moussa qui a été élitreillé depuis un couloir d'avalanche sur le versant italien du col de l'Échelle. Ce jeune Guinéen d'une vingtaine d'années a été hospitalisé à Briançon pour des gelures aux pieds. D'écouter Anne Vache, Cordée solidaire pour les migrants, un reportage de Pierre Isnard-Dupuis, avec la contribution de Magdalena Reshkova et d'Hélène Servelle pour Radio Zinzine et les Radios Libres. Merci aux gens de Tous Migrants pour leur disponibilité, merci à Jacques, notre hôte, un remerciement spécial à Laetitia Cuvillier pour sa participation à Radio Haute-Romanche notamment. Merci à toutes celles et ceux que vous avez entendus et aux 300 personnes qui sont venues manifester leur solidarité ce 17 décembre par moins 15 sur les pentes du col de l'Échelle. On vous laisse avec Partisan, repris par Debamix en compagnie du rappeur Scalpel. A bientôt pour d'autres résistances et aventures radiophoniques.
Un jour dans ma vie, j'ai changé de nom. La clandestinité m'a happé, une soif de révolution. Vivre dans l'indifférence m'était insupportable. J'ai dit au revoir à ma famille et suis parti vers l'insurmontable. Traverser des villes, des guerres et des montagnes. Perdu beaucoup mais peu si le peuple gagne. Mon corps gît dans la mémoire de mes frères d'armes. Partisan, je garde mon fusil, je vous remets mon âme. Résistant d'hier, d'aujourd'hui et demain. Militant fier qui prend son destin à deux mains. L'une sur la machette, l'autre sur un bout. Aucun bien, le vent se lève autant que se lèvent nos poings. Partisans du grand soir ici et maintenant. Des lendemains qui chantent, des soleils levant. Des veilles de passage à l'action où l'on se dit adieu. De lutte en traite d'espoir en un futur radieux.
J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis.
Une
soif de révolution. Une soif de révolution.